Est-ce que vous connaissez des faiblesses?
Si, je suis un petit peu trop perfectionniste, ça oui. Ouais. Il me faut toujours le meilleur, sinon rien du tout. Si c'est trop limite, je veux dire, laisse tomber. Mais là, cet entretien, je veux dire, là, je le sens bien, là, tu vois. J'ai l'impression que ça se passe pas mal, non?
Libre Radio, les vrais grands entretiens.
Voilà, nous sommes donc de retour en direct et en public depuis notre studio 99. J'ai peut-être omis tout à l'heure de préciser de petites choses, c'est qu'effectivement, nous diffusons, nous retransmettons depuis le studio 99, c'est à la rue de Lyon 99, et que, évidemment, les personnes qui souhaitent s'y rendre pour assister à l'émission, eh bien, sont les bienvenues. Il suffit de nous faire un petit mail pour ouvrir la porte en bas. Alors, le mail, c'est à l'adresse suivante, info@libradio.org. Et puis, effectivement, pour interagir avec nos invités, si tu souhaites les questionner, eh bien, là aussi, un mail à l'adresse suivante, info@libradio.org. Ou alors sur la page Facebook de l'émission, eh bien c'est la comète à la banane, et évidemment nous transmettrons ici et nous répondrons aux questions qui arriveraient. Voilà, alors nous allons désormais parler de Genève, capitale des droits LGBTI+, en compagnie, le disais-je, de Marjo et de Annick, donc rebonjour à vous. Peut-être que pour commencer, il serait bien que vous vous présentiez un petit peu à l'aune de ces objets parlementaires, de nous dire peut-être d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a conduit à produire ces fameux 9 objets parlementaires desquels nous allons parler juste après. Alors je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Marjo.
Oui, alors bonjour. Marjo Blanchet, donc j'ai été dans plusieurs associations LGBT depuis plusieurs années, donc j'ai beaucoup milité au sein des associations, maintenant au sein de Solidarité notamment et Ensemble à Gauche pour les élections, où je continue de défendre d'une autre façon les droits LGBT en essayant de changer les lois. Parce que pour moi, le travail se fait à la fois dans la rue, dans les assos, au niveau du changement de loi, donc il faut être un peu partout. Et suite à plusieurs demandes qui ont déjà été faites par les associations, on voit que des fois ça ne suit pas au Parlement, donc là on a décidé de mettre un coup de pouce un peu plus fort, en espérant que ces objets passeront, parce qu'ils doivent être soumis au gouvernement. Et donc là on en a 9, c'est pas la fin, parce qu'on en a d'autres en tête qu'au jour d'aujourd'hui on n'a pas pu proposer, mais qui vont suivre, donc c'est pas fini, et on espère que beaucoup de gens seront avec nous, que ce soit dans la rue ou justement pour les soutenir et les défendre.
Très bien, donc une lutte de longue haleine, comme on le pressent déjà. Annick ?
Alors, je suis militante depuis un certain nombre d'années, d'abord dans les partis politiques et au Parti du Travail, donc dans Ensemble à Gauche, et puis maintenant dans les associations, je suis allé dans différentes associations à Genève aussi, et puis je connais Marjo de là, et puis je pensais que c'était important de soutenir cette démarche et de défendre justement, juste dans les parlements, les questions des droits LGBTI.
D'accord. Alors justement, on va commencer par quelques questions quand même triviales pour bien situer le sujet. Alors LGBTI+, qu'est-ce que cela signifie-t-il? L'acronyme, c'est Annick qui répond.
Alors, l'acronyme LGBTI, c'est pour dire lesbienne, gay, bi, bisexuel, transgenre et intersexe. Le plus, c'est pour prendre toutes les identités qui ne sont pas décrites dans cet acronyme, parce qu'il y a un certain nombre d'identités qui ne correspondent pas forcément aux associations, mais il y a beaucoup de personnes qui sont concernées également et qui sortent de l'hétéronormativité, comme la sexualité, comme le fait d'être à genre, comme le fait d'être attiré, quel que soit le genre de la personne. Toutes ces questions, en fait, font partie de cet environnement, mais sont pas se regroupent, en fait. C'est pour ça qu'on met le plus dans LGBTI+.
D'accord, c'est vraiment pour être
le plus inclusif possible.
Possible, ouais, j'entends bien. D'accord. Et alors, pourrait-on faire un bilan de la situation actuellement en Suisse, et peut-être plus particulièrement en Suisse romande et à Genève?
Alors, le bilan actuel en Suisse, il est vite vu. Il y a l'île Gamap qui est une association qui recense justement au niveau des lois tout ce qui est fait dans les pays à travers l'Europe et le monde. Si on prend l'île Gamma Europe de 2017, donc le dernier qui est sorti, la Suisse est 26e sur 46 au niveau européen, en prenant en compte vraiment toutes les lois. Donc la Suisse est un des derniers pays européens où, par exemple, il n'y a aucune loi concernant la possibilité de demander l'asile pour des raisons de persécution, parce qu'on est homosexuel, parce qu'on est transgenre ou quoi. Donc la Suisse est un des derniers pays où il n'y a aucune loi qui favorise ça. Également au niveau des personnes transgenres ou non-binaires, ils ne sont toujours pas pris en compte dans aucune loi, donc forcément pas protégés. On a vu lors de l'établissement de la dernière constituante, l'orientation sexuelle, par exemple, a été ajoutée dans la constitution comme le, le racisme et tout en tant que protection, donc qu'il soit pris en compte quand on se fait agresser en tant que tel, donc c'est une agression homophobe. Par contre, malheureusement, l'identité de genre n'a pas été ajoutée. Il n'y a eu que l'orientation sexuelle, donc ça, les associations se sont réjouies et c'est très bien, mais c'est vrai qu'il y a un gros bas qui blesse. Une fois, comme ça arrive souvent, malheureusement, certaines catégories de la LGBTI sont mises de côté et on les oublie. Donc là, l'idée est vraiment de pouvoir aussi pallier à ce manque.
Puis je peux rajouter que pour la question des partenaires, il n'y a pas de mariage, mais il y a le partenariat qui étant réservé aux personnes de même genre, ça pose le problème que les personnes qui sont partenariées sont forcément hantées comme montrées comme homosexuelles, et donc c'est aussi il y a beaucoup à faire encore dans ce sens-là. Et beaucoup de personnes ne vont pas se partenarier pour pas dire à tout le monde je suis gay, je suis lesbienne,
etc. Ouais, alors on va parcourir ces 9 objets parlementaires juste après avoir justement fait une entrée en matière un petit peu générique. Peut-être précisez-vous également ce que signifie identité de genre, binarité, non-binarité. Ces quelques mots-clés-là qui peut-être sont obscurs pour les personnes qui nous écoutent et qu'il serait bien de clarifier.
Ben, l'identité de genre, on nous associe une identité masculine ou féminine. Et en fait, une personne qui est transgenre, c'est quelqu'un dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qu'on lui attribue à la naissance. C'est-à-dire qu'on a dit « t'es un garçon, t'es une fille », et puis en fait la personne « mais non, moi je suis pas une fille ou je suis pas un garçon ». Et l'identité de genre, c'est tout ce qui fait partie de comment on se ressent par rapport au genre, comment on vit, comment on interagit avec les autres. C'est un tout en fait qui est lié en partie à la socialisation, mais qui fait partie de l'identité personnelle.
Absolument. Et alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on entend l'épithète cisgenre, que l'on entend de plus en plus ?
En fait, cisgenre, c'est comme on dit une personne transgenre, donc personne qui est pas, dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance. Cisgenre, c'est pour dire les autres personnes. C'est pour éviter de dire normal, trans, comme on dit hétérosexuel, pour dire l'opposé d'homosexuel. Dans ce cas-là, on dit cisgenre pour dire non-trans.
D'accord. Alors, juste, je vais préciser que pour les personnes qui sont parmi nous aujourd'hui, si des questions émergeraient, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Des micros sont à disposition pour que, justement, on puisse clarifier au mieux, justement, ces terminologies que d'aucuns ne connaissent peut-être pas encore complètement. Concernant les objets parlementaires, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un objet parlementaire ? Quelle est sa fonction ? Et à qui est-ce que l'on adresse ce type de requête ?
Alors au niveau des objets parlementaires, il y a plusieurs formes, ça peut être des motions, ça peut être des projets de loi, donc des motions ou pour changer des lois qui existent déjà ou proposer des nouvelles lois pour les améliorer en général si possible. Et justement, donc là, ça va être soumis à nos coéquipiers de tout parti pour déjà avoir un peu, pour pouvoir discuter avec eux, pour essayer d'avoir des camarades un peu qui viennent avec nous soutenir ces projets. Donc on compte beaucoup sur certains autres partis notamment. Et donc on va proposer ces projets en espérant qu'après ils soient votés en séance de grand conseil. Donc là la prochaine séance ce sera pas tout de suite parce que d'abord on va voir les autres parties et ensuite ce sera proposé au grand conseil qui devra valider ou pas les objets qu'on propose, et dont notamment un qui propose d'aller plus loin au niveau fédéral en reprenant un peu tout ça.
Voilà, au Parlement fédéral, là on va aborder ça justement au moment où on égrènera ces 9 objets. Alors vous l'avez dit, ce sont les partis qui font ce travail-là, mais également, est-ce que vous allez dans la rue ? Est-ce que des pétitions, ou en tout cas un appel est formulé pour que la population civile, d'une manière ou d'une autre, puisse se déterminer et soutenir éventuellement ces objets parlementaires ?
Oui, alors je tiens à préciser, ce travail n'a pas été fait que par le parti, on l'a fait en tandem avec des associations, notamment avec la Fédération, notamment avec la Lo Clinique, avec le DIP. Donc on l'a pas fait tout seul.
La Fédération des associations LGBT.
Voilà.
Donc ce travail n'a pas été que notre fruit, on l'a fait en collaboration. Et après, bien sûr que si après ça passe en votation civile, là on attendra le soutien du peuple.
D'accord,
et là, bien sûr qu'on sera dans la rue. Comme ça a été, il n'y a pas longtemps, on a eu le cas où on devrait contrer là un truc qui voulait inscrire du PDC, qui voulait inscrire dans la Constitution que le mariage était le fait d'un homme et d'une femme. Alors là, on a eu beaucoup de soutien de la population qui nous a aidé à invalider ce vote.
D'accord, oui. Alors effectivement, on le rappelle, et c'est noté dans le dossier de presse que vous avez envoyé, ces divers objets parlementaires préparés en collaboration avec des experts universitaires ainsi que la Fédération Genevoise des associations LGBT. Donc effectivement, dans la préparation de tout ça, vous vous êtes consultés entre vous. C'est un gros travail qui est fait en amont, j'imagine. Ça a pris combien de temps, ça, pour être prêt ?
Oh, bah, je dirais en tout cas 6 mois là. Ah ouais. Parce que bah, forcément, je veux dire, les personnes qui sont par exemple à la Fédération LGBT ou au DIP, ils ont aussi d'autres choses en ce moment qui est un peu chaud. Nous aussi, on a les élections en même temps, donc on a beaucoup de temps, donc ça a pris du temps. Et c'est vrai que du coup, j'aurais souhaité en avoir plus pour faire encore d'autres projets.
Est-ce que ça tombe bien que les votations, les élections cantonales soient quasiment au même moment ? Est-ce que c'est plutôt un problème pour vous ?
En fait, on verra en pratique parce qu'il y a un certain nombre de partis qui ont dit on va soutenir les personnes LGBT, on va soutenir les personnes LGBT. Après, il faut voir comment ils feront concrètement au Parlement après les bonnes intentions. Donc, est-ce que c'est des effets d'annonce ou est-ce que c'est profond ? Bon, je pense qu'on le verra assez rapidement.
Ouais, effectivement.
Mais bon, par contre, ça nous offre quand même une bonne visibilité, c'est vrai, pour ces projets.
Alors, justement, je voulais en arriver à ça. Est-ce que pour le moment, donc, vous avez communiqué déjà par rapport à ça ? Quels ont été les relais ? Quels ont été les retours que vous auriez déjà reçus ? Je ne sais pas, quelques médias s'y intéressent ou vous vous apercevez que là aussi, c'est encore problématique et il y a de l'ostracisme qui est pratiqué ?
Alors, au niveau média, il n'y a pas eu beaucoup de monde, c'est vrai, au lancement. On a eu un petit écho sur un média un peu mainstream, mais par contre, il n'y a pas eu beaucoup de retours, non, du tout. Donc on sent que ce n'est pas encore un truc qui passionne vraiment énormément et pour lesquels on va se déplacer en masse, etc. Après, il y a ceux qui peuvent se déplacer et ceux qui ne peuvent pas.
D'accord. Comment vous l'expliquez, ce désintérêt au moins apparent par rapport à des sujets qui sont quand même, enfin, dont on peut espérer qu'ils sont enfin d'actualité ?
C'est une belle question. Après, ben, les médias sont intéressés aussi par certains éléments d'actualité. Les organisations LGBT sont peut-être un peu froides en période d'élection, d'être plutôt présentes sur ces questions-là. Après, ben, faut voir si elles prendront le relais aussi, parce que c'est important que tout ce qui a été discuté avant ben, se soit soutenu et qu'on puisse avancer ensemble. Mmh. Je pense aussi des choses qui se font sur le long terme, mais c'est vrai que là, on regrette un peu qu'il n'y ait pas plus de médias qui sont intéressés, notamment dans les associations LGBT, parce qu'ils auraient pu être un peu plus présents. Quoi.
Ça peut encore venir ? Est-ce qu'on peut dire ça ? On peut annoncer ?
Bah, ça peut encore venir quand les objets seront présentés au Parlement. Mmh. Et puis... par rapport aux réactions sur ces objets-là aussi.
Oui, absolument. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on va le répéter, les chiffres sont pour le moins alarmants. Relativement récemment, nous étions rendus chez Dialogué, qui nous expliquait que, par exemple, les agressions homophobes n'étaient pas recensées et que ça posait un problème parce que, du coup, justement, noyer dans l'ensemble des agressions, eh bien, ça ne permettait pas d'identifier et de, justement, peut-être aller dans le sens du règlement de ce problème-là. Et il y a moult problèmes de genre là. Selon vous, est-ce qu'on est dans une période de régression, d'évolution, de stagnation par rapport aux droits LGBTI+ ? Qu'en est-il selon vous ?
Alors je dirais que c'est marrant, mais c'est assez dépendant aussi. On voit par exemple en France, quand il y a eu toutes ces manifestations, la manif pour tous contre le droit au mariage, d'un autre côté, il y a eu beaucoup plus de violence. Les personnes LGBT elles-mêmes, ben, comme ça allait dans ce sens-là, les gens réactionnaires, voilà, ont fait preuve de beaucoup plus de violence. Donc, quand un droit avance, c'est pas forcément que toute la communauté avance et d'autres se font peut-être plus fracasser la gueule, entre guillemets. Et en ce moment, on voit qu'à Genève, enfin, dernièrement, il y a quand même eu une montée des agressions, que ce soit au niveau des personnes homosexuelles ou transgenres. Il y a eu quand même une montée des agressions qui était de plus en plus violente, avec notamment bah, des viols, des personnes qui finissent dans le coma, etc. Donc, c'est un peu inquiétant quand même. Et bon, on dit à toute action, réaction, donc faut faire un peu attention à ça. Ouais. Ouais. Et protéger les personnes les plus vulnérables.
Et là aussi, comment est-ce que vous expliquez que, alors que l'on pourrait dire que le temps aidant à l'affaire, eh bien, les gens arrivent à accéder de plus en plus à des informations, à comprendre et à peut-être être plus inclusive et moins dans cette espèce de rapport incroyable de violence
hein. Ben, je crois qu'il y a, il y a aussi l'aspect qu'il y a une partie de la communauté LGBT qui s'est, comment dire, qui s'est intégrée à la société, qui s'est normalisée, si on veut, donc qui apparaît comme plus normal, comme posant pas de problème, et qu'il y a une partie qui est vue comme trop différente, trop extrême, et qu'il y a des tensions qui se font, la ligne de tension s'est déplacée en fait. Donc les personnes plus visibles, comme les personnes trans, sont d'autant plus victimes de violences, parce que ben, c'est sur ce terrain-là que les oppositions se font, alors que les personnes lesbiennes et gays ben, vont avoir un peu plus de facilité, parce que ça commence à devenir acquis qu'ils ben, peuvent vivre ensemble, qu'ils peuvent avoir commencer à faire des familles, mmh. Et ce genre de choses est moins extrême, moins vu comme une extrême maintenant qu'auparavant. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est qu'en fait la ligne de démarcation, les enjeux ont changé. D'accord. Et qu'il y a une peur sur les questions de genre aussi. Même si ça évolue, ben, il y a une forte peur sur ce qui pourrait redéfinir ce que c'est qu'un homme, une femme. Donc quand on parle des personnes trans, ça fait peur parce que c'est des personnes qui vont changer de case et forcément qui risquent de remettre en question ce qu'on pense comme acquis.
Nous avions reçu Audrey, que l'on salue nouveau avec beaucoup de plaisir, qui a initié une association interaction des personnes intersexuées en Suisse, dans toute la Suisse. Et on a vu également comme c'était compliqué pour ces personnes-là de se retrouver pour pouvoir faire valoir des droits et du coup de pratiquer l'autodéfense. Est-ce que c'est particulier aux personnes intersexuées, parce qu'effectivement c'est quelque chose dont on sait que c'est médicalisé d'une certaine manière, donc j'imagine extrêmement ancré dans l'esprit des gens. Est-ce que des situations analogiques paraissent dans d'autres groupes LGBTI?
Ben, pour les personnes trans, c'est assez visible vu qu'elles aussi subissent la médicalisation assez forte. Les personnes trans sont généralement dépendantes de psychiatres pour le bon vouloir de psychiatres pour pouvoir commencer une transition. Donc c'est des situations où on doit coller aux normes masculines, féminines pour plaire aux psychiatres, pour qu'ils disent « oui, vous êtes vraiment une femme trans, vous êtes vraiment un homme trans, donc là, on va pouvoir vous laisser faire une transition ». Et il y a tout le côté, une infantilisation en fait, des personnes trans qui se fait par les milieux médicaux. On ne fait pas confiance à la personne pour savoir qui elle est, alors que ça fait des dizaines d'années qu'elle s'interroge là-dessus. Et on a aussi l'aspect que tout ce côté-là, les personnes trans n'aident pas forcément à se mettre en avant. Donc la plupart des personnes trans vont pas être hortes, elles vont être, quand je dis hortes, c'est donc l'identité publique. Voilà. Donc en fait, vont essayer de vivre leur vie tranquillement et donc vont être plutôt se cacher en période de transition, donc vont être moins revendiquer ces questions et ensuite peut-être changer même de lieu de vie pour être tranquille, pour pas qu'on les dérange sur qui elles sont. Donc en fait, il y a un côté très difficile pour s'unir sur ces questions-là. Ce qui fait qu'il y a peu de personnes qui sont présentes, qui peuvent militer là-dessus. Et pour les personnes intersexes, comme en plus on leur ment sur leur statut, beaucoup de personnes intersexes ne savent pas qu'elles sont intersexes, mais on leur a dit qu'elles avaient un problème de santé et tout, qu'elles devaient prendre certains traitements pour ce problème de santé, mais on ne leur a pas dit qu'en fait, on avait déterminé qu'elles étaient hommes ou femmes, et puis qu'on les a forcées dans quelque chose qu'elles ne souhaitaient pas forcément. Mmh. Donc c'est des choses que, comme les milieux médicaux ont un fort contrôle là-dessus, c'est plus difficile les luttes.
Évidemment.
Et vu que c'est aussi des sujets qui font peur, les personnes, c'est vraiment des tabous en fait. Alors, trans, un peu moins maintenant, mais ça reste quand même des tabous et c'est des impensés aussi. Le fait qu'on puisse pas imaginer déjà, pour les personnes trans, la dernière chose qu'on fait, on essaye de vivre dans les milieux homosexuels ou comme ça, mais en fait. C'est pas possible et la dernière chose qu'on va se dire c'est ok, alors peut-être que je suis vraiment trans mais c'est tout mais pas ça quoi, donc on essaye tout avant de pouvoir avant d'entamer une transition et il y a tout qui nous décourage de le faire, donc à ce côté aussi le tabou est tellement fort que c'est difficile d'agir sur ces questions.
On peut dire que ces violences, eh bien, elles ne connaissent aucune frontière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de refuge, que ce soit au sein de la famille, du travail, de la société civile, donc même des réseaux associatifs, de la santé, on vient de le dire. Y a-t-il un endroit où on puisse trouver refuge quand on est dans cette situation-là?
Justement, alors, parlons des situations LGB. Oui, il y a des associations lesbiennes et gays où on peut trouver refuge, on sera bien accueilli, bien protégé. Au niveau des personnes trans et intersexes, c'est plus compliqué. Alors bien souvent, les personnes ont d'abord été issues, justement, se sont d'abord identifiées comme lesbiennes ou gays, bien souvent. Mais on voit qu'au moment où on se révèle en période de transition, même dans la communauté LGBT, ça peut être problématique. Donc parce que justement, il n'y a pas des choses clairement définies dans les chartes, dans les statuts des associations. On peut se dire trans-inclusif, mais pas dans les faits. Il peut y avoir de la transphobie, même dans les milieux LGBT, comme il peut y avoir du sexisme, même dans les milieux de gauche. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Voilà. Donc, on va pas se leurrer. Il y a quand même un gros problème encore là-dessus, où beaucoup de personnes, quand elles ont commencé leur transition, ont quitté les assos. Dont moi-même. Et donc, ça pose un véritable problème, dans le sens où les subventions sont quand même accordées normalement pour les LGBT, y compris. Alors, les I, on les voit pas souvent, par contre. Ça, c'est vrai. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai problème de fond à mener au milieu des assos pour enrayer ça, parce que c'est quand même les personnes les plus vulnérables, et quand même dans l'endroit où tu te dis que c'est l'endroit où tu vas te protéger, accueillir, où tu vas enfin pouvoir t'exprimer, et quand là, tu t'en ramasses plein la gueule, tu restes chez toi et tu te cloisonnes, quoi.
C'est souvent auprès des pères, en fait, qu'on trouve du soutien. C'est entre d'autres personnes trans qu'on arrive, en tant que personne trans, à se sentir mieux. Mais c'est vrai que c'est aussi limité parce qu'il n'y a pas tellement d'espace pour les personnes trans à la base. Puis c'est souvent dans les contextes de groupes de soutien, de parole, et pas forcément... Donc, qui répondent à certaines demandes, mais pas forcément sur le côté social, sur le côté vie de tous les jours. Donc, il y a ces aspects-là. Pour les personnes intersexes, il y a la difficulté en plus que c'est difficile pour les personnes intersexes de sentir des liens avec la communauté LGBT parce que la plupart du temps, leurs revendications ne sont pas du tout mises en avant. Et donc, elles vont plutôt prendre du recul et se dire ça ne nous concerne pas et puis essayer de leur côté de fonctionner le plus souvent seul.
Ok. Nous allons arriver à la partie où on va égrener ces 9 objets parlementaires. Avant ça, encore une ou deux petites questions. Et puis, de nouveau, je me tourne vers la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour en terminer, j'aurais voulu savoir. Effectivement, on a parlé tout à l'heure que la préparation. Olivier a une question. Alors, hop, voici un micro. Merci, Igor. Bam. Oups. Ah. Voilà, si tu peux te rapprocher un petit peu. Merci, Olivier. Ouais, on est. Ouais. Ah, alors, attends, on va te lever ton micro, on va t'allumer ton micro, c'est bon, vas-y.
Alors, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire LGBT, mais le I, ça, c'est quoi exactement ?
Le I, c'est pour intersexe. Ça concerne les personnes qui ont été assignées de force, homme ou femme, à la naissance, alors qu'elles rentraient pas dans les cases homme ou femme.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui les ont, quand c'est visible, qui les ont traités pour qu'elles aient un corps masculin ou féminin. Plus souvent à l'aide de traitements hormonaux et d'opérations génitales. Et c'est des personnes qui ont donc subi des violences médicales, la plupart du temps, des traitements qui n'étaient pas nécessaires, et qui, simplement parce qu'elles ne rentrent pas dans ce qu'on entend par homme ou femme, et elles peuvent avoir une identité masculine ou féminine, comme elles peuvent avoir une identité qui est ni masculine ni féminine, mais ces personnes-là sont en dehors des cases, en fait, de leur naissance.
Et puis, c'est des personnes qui sont les plus marginalisées, les I en question, ou bien...
Extrêmement marginalisées, parce qu'elles sont, d'une part, on leur ment. On conseille aux parents des nouveau-nés intersexes de ne pas leur dire D'accord. qu'ils sont intersexes. Donc, en fait, les personnes vont savoir qu'à l'âge adulte, en fait, qu'elles peuvent être... qu'elles étaient différentes à naissance que ce qui était attendu. Mmh. Et puis, il y a une ou deux organisations intersexes en Suisse... et très peu de personnes qui vont militer parce que la plupart du temps elles veulent être tranquilles, elles veulent juste sentir mieux et c'est tout. Elles n'ont pas forcément des besoins sociaux comme il y a pour les personnes LGBT et c'est pour ça qu'elles sont le plus souvent isolées aussi, c'est que peu de soutien, le sujet est très tabou et puis pas les mêmes besoins.
D'accord, merci.
Donc à savoir que c'est des personnes qui naissent avec un sexe qui n'est pas clairement homme, clairement femme à la naissance. Et donc, comme notre société est binaire, et puis ça vient du patriarcat, on sait bien pourquoi on veut distinguer hommes et femmes, donc on ne peut pas les laisser évoluer et leur permettre de choisir qui ils sont et de sentir qui ils sont. On va faire des opérations pour les genrés masculins ou féminins. Donc quand ils sont bébés, quand ils naissent, quoi. Et ça, c'est les parents et les médecins qui décident. Le bébé, il ne peut rien dire.
Et sans que leur santé ne soit impliquée. C'est-à-dire qu'on fait des soins pour pas de santé. C'est des soins pour assigner, effectivement, comme vient de le dire Marjo.
Et ça comprend une stérilisation, souvent, parce qu'on retire les gonades pour que la personne ne va pas se développer dans un sens ou un autre. Mmh. Et ça implique qu'elle devra prendre des traitements hormonaux à vie et qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Donc, c'est vraiment des conditions...
Et qu'en plus, il n'y a pas de consentement éclairé.
Donc,
si on te met homme et puis qu'après, c'est un peu plus compliqué au niveau des opérations après pour réassigner la bonne identité.
Et en plus, ils ont autant de difficultés à pouvoir changer de genre que les personnes trans après. Donc, même si ce n'était pas clair au départ, après, elles doivent prouver, elles doivent repasser devant des médecins pour prouver qu'elles sont vraiment hommes ou femmes et tout ce qui est attendu derrière.
Et c'est aussi des choses que tu as précisées, mais qui c'est très important à dire, sont des opérations, c'est tout des procédures qui ne sont médicalement pas du tout nécessaires. Dans certains cas, j'imagine bien entendu que oui, mais dans la majorité des cas, en tout cas, nous, ce qu'on a entendu à la radio, les témoignages qu'on a eu de personnes qui étaient dans ce cas, qui étaient maintenant adultes, c'est une procédure qui est rien de plus ni de moins que purement esthétique. Et évidemment, toutes les conséquences sociales qui en découlent. Voilà.
Alors on va peut-être envoyer également les auditrices auditeurs au podcast concernant Interaction, qui est une association justement de personnes intersexuées en Suisse romande, et avec laquelle présidente Audrey Egerter, nous avions eu un long entretien, et effectivement c'était très touchant, et elle nous rappelait, ah oui pardon, encore une question Philippe.
Oui, j'aimerais encore juste intervenir, c'est qu'on parle de progrès de la médecine, mais là il s'agit plutôt en non-progrès, en retour en arrière. Parce que dans les années 30 et 40, nous, on connaît bien Claudette, hein, qui est hermaphrodite, et puis qui n'a pas été opérée, parce que tout simplement, l'opération à l'époque n'existait pas, hein, née dans les années 30. Donc, l'opération n'existant pas, la question ne s'est pas posée d'opérer ou de ne pas opérer. Elle a choisi après sa voie elle-même. Mais que voilà quoi, c'est quelque chose de terrible quand on pense que on parle de progrès de la médecine et en fait c'est pour un retour en arrière, et que tout d'un coup on est obligé de choisir entre masculin, féminin, or que avant tout ben c'est un enfant, mais un enfant reste un enfant quoi, c'est tout, point barre quoi.
Et pour les personnes trans, en fait, on les force aussi à suivre certains parcours de transition. Et souvent, ben, si la personne ne souhaite pas de faire d'opération, elle n'a pas de feu vert pour avoir un traitement hormonal ou avoir simplement une transition sociale. Donc il y a une volonté vraiment d'avoir des personnes qui sont strictement dans le masculin et le féminin, qui rentrent dans la norme, indépendamment du besoin de la personne.
Alors ça fait partie justement de un parmi les objets parlementaires que vous proposez. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite respiration musicale, parce que déjà là, on en a déjà beaucoup dit. Et puis juste derrière, eh bien, on va entrer vraiment en matière sur les fameux 9 objets déposés par Ensemble à Gauche concernant Genève, capitale LGBTI+. Ça vous va comme ça ?
Parfait.
Ok, on y va avec une petite pause musicale. On écoute Amsterdam.
This is Chantel alongside the Amsterdam Klezma band in a Bukovina club style.
родился я в рубашке. Рубашка это не для глажки, след простыл, покрылся серой пылью. И не родился я, чтоб сказку сделать былью. Хоть родился я в рубашке, рубашка это не для глажки, след простыл, покрылся серой пылью. И не родился я, чтоб сказку сделать былью.
www.libradio.org.
C'était pour si c'était pas clair, libradio.org. Voilà, donc nous sommes de retour en direct et en public depuis le studio 99 en compagnie de Annick et de Marjo qui nous parlent des droits et de Genève, capitale LGBTI+. Et avant de passer point par point aux objets parlementaires qui seront proposés sous peu et qui vont être expliqués maintenant, je voulais encore vous demander, y a-t-il des sites internet, des sites internet ressources pour que les personnes qui nous écoutent puissent justement aller plus loin dans l'information concernant justement ces droits ? Annick répond.
Alors, pour les personnes trans, il existe plusieurs organisations. Il y a l'organisation TGNS, Transgender Network Switzerland, qui est une organisation fêtière trans qui est dans toute la Suisse, mais qui a un groupement qui se réunit à Lausanne. Il y a aussi l'association 360, qui a un groupe trans pour les personnes trans qui ont besoin de soutien. Sur Vaud, il y a Profa, qui est lié au planning familial, en fait, hein, qui fait le soutien des personnes trans, que ça fait partie de leur soutien, et la fondation Agnodis, qui travaille sur ces questions-là. Côté organisation LGV, alors, on a, pour les lesbiennes, il y a l'Estime à Genève et Lilith sur Lausanne. Il y a, pour les hommes gays, il y a Vaux gays sur Vaux, et dialoguer sur Genève, et 360 qui soutient aussi les personnes gays. Donc il y a un certain nombre d'organisations qui sont présentes. À Genève, les organisations sont groupées au sein de la Fédération genevoise des associations LGBT. Je peux dire aussi qu'il y a une permanence juridique qui existe au sein de 360 pour les questions liées aux violences, liées aux problèmes de tous les problèmes légaux que les personnes LGBT peuvent avoir. Ça se fait en collaboration également avec Estime, donc c'est possible d'avoir du soutien auprès de ces organisations.
Le refuge est toujours donc...
Je pense que vous pouvez trouver, en fait, plus simplement, il faut aller sur la Fédération genevoise des associations LGBT, il y a toutes les associations genevoises, y compris le refuge qui accueille des personnes mineures, notamment qui se font jeter de leur maison, en fait, du fait de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Il y a également Asile LGBT, qui est un programme justement qui vient en aide aux personnes qui sont venues chercher asile ici, qui ont aussi leurs problèmes spécifiques, parce que justement, après, il y a le croisement de toutes ces luttes, enfin, c'est tout, après, des ajouts d'oppression, discrimination spécifique, et donc Asile LGBT est vraiment, je pense, le bon endroit pour les personnes qui viennent ici, issues de la migration.
Parce qu'effectivement, comme vous le dites, les problèmes intersectionnels après surgissent très rapidement. Je veux dire,
mais sur le site de la FEDE, il y a tout.
Ouais. Je voulais de nouveau juste rappeler, parce qu'on a fait ce long podcast, l'association Interaction, donc inter-action-suisse.ch, l'association suisse pour les intersexes. Voilà, c'est juste pour ajouter ce mot-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On y va. Ce que je vous propose, c'est que point par point, on égrène ces objets parlementaires que l'on va mettre à l'index maintenant. Ça vous va comme ça ? On y va comme ça, ouais. Alors, le premier de ces objets, c'est résolution à l'Assemblée fédérale. Qu'est-ce donc ?
Alors, la résolution à l'Assemblée fédérale, elle regroupe un peu tout ce qu'on propose dans les autres projets de loi pour Genève. Mais seulement là, c'est Genève. On demande, c'est ce que Genève porte ces projets au niveau fédéral, parce qu'au niveau fédéral, c'est, on le sait, toujours plus compliqué, bah, surtout pour nous qui ne sommes pas au niveau fédéral en tant que parti. Donc on demande à Genève de pousser au niveau fédéral pour accepter un peu les 8 projets, les autres projets qu'on propose. Mmh. Donc ça regroupera le mariage, l'adoption, les personnes trans, intersexes.
Très bien, très bien. Ensuite, 2 objets en faveur des personnes transgenres, le projet de loi constitutionnelle pour l'identité de genre et la structure familiale, et la motion CASE. On y va avec la deuxième déjà ? Projet de loi constitutionnelle pour l'identité de genre et la structure familiale.
Oui. Alors, pour l'identité de genre et la structure familiale, c'est-à-dire pour le... que je dise pas de bêtises. Ah oui, c'est par rapport à la discrimination, en fait. C'est qu'actuellement, il y a dans la constitution cantonale une référence aux personnes à l'orientation sexuelle, mais rien du tout sur l'identité de genre. Donc, l'identité de genre n'est pas protégée, ce qui veut dire qu'une personne trans n'est pas protégée des violences et des discriminations. Donc on a choisi on propose une modification de cet article de loi pour prendre en compte cette question-là, parce que, ben, évidemment, les personnes sont attaquées pas seulement sur le fait d'être lesbiennes ou gays, mais aussi sur leur expression de genre, comment elles se présentent, et sur l'orientation, sur leur identité de genre.
Tout à fait. Et là, il s'agirait d'une loi constitutionnelle, parce que l'importance de fixer ça dans la Constitution, bien entendu.
Voilà, ben, ça... mettre quelques références de base pour le canton, et qu'on ait des bases légales pour lutter contre ça.
À savoir qu'au niveau fédéral, il y a quelque chose qui est en cours, justement, mais malheureusement qui est sans arrêt attaqué par la droite et puis tous les partis un peu réactionnaires, et puis bref. Donc ça a été déjà reporté à 2019, donc à Genève on s'est dit on va pas attendre que ça passe au niveau fédéral, autant déjà le commencer déjà pour nous chez nous.
C'est très bien. Motion CASE.
Alors la motion CASE, alors là on revient justement sur l'idée de l'identité de genre et binaire non binaire, donc ça rejoint les personnes transgenres et intersexes. Justement le fait de s'identifier sur des documents officiels en tant qu'homme et femme, on sait très bien que ça apporte rien au schmilblick, à part le fait de juste bien nous cantonner en tant que femme, voilà, t'as ton rôle qui va avec, et puis en tant qu'homme, t'as ton rôle qui va avec, t'as les inégalités qui vont avec, les oppressions et tout. Et donc là l'idée ce serait vraiment, alors moi à titre personnel, je serais plutôt pour une suppression de ces cases-là, parce qu'elles ne servent à rien, à part servir... Voilà. Mais par contre, on propose également une autre possibilité, ce serait d'ajouter une troisième case qui serait haute pour les gens qui se définissent ni en tant qu'homme ni en tant que femme, ou les personnes en transition ou comme ça. Donc là, ça ne, de nouveau, un peu comme tous les projets de loi qu'on propose, en fait, ça ne touche pas la population pas concernée, ça ne va rien leur changer dans leurs droits, dans leur vie de tous les jours, mais c'est vraiment pour protéger les personnes concernées. Et puis, par exemple, quand on est en transition, puis qu'on peut avoir un physique qui est plus adapté au genre qui est sur le papier d'identité, dès qu'on va présenter notre abonnement de TPG, notre abonnement de train, dès qu'on va chez le médecin, on va être outé et automatiquement, c'est les regards sur les personnes après des agressions potentielles. Donc c'est l'ajout, la suppression d'une case.
Voilà. Mise en cause des papiers qu'on présente parce que ben, vous ne correspondez pas à ce que vous présentez. Quoi.
Mmh, ouais. Et là, vous avez observé que c'était peut-être plus compliqué de supprimer le concept en entier que d'ajouter justement une case autre.
Ben, y a beaucoup de références dans les textes, dans les règlements, sur ce qui doit être inscrit sur les documents d'identité, sur les formulaires aussi. Et donc là, ben, c'est précisé homme, femme, etc. Et mettre une case autre, la plupart du temps, ça serait une modification, surtout du côté technique finalement, des applications pour gérer les membres, pour gérer tout ce qui concerne les adresses, tout ce qui concerne les personnes. Et là, ben, ça serait laisser une possibilité en plus. C'est souvent utilisé en fait le homme-femme pour les formules de politesse. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas la possibilité de ne pas mettre de formule de politesse. D'accord. Et donc de pouvoir laisser la possibilité de prendre en compte ça serait bien.
Okay. Supprimer, c'est vrai que là les gens vont se sentir touchés, ils veulent leur case homme-femme. Supprimer, c'est plus compliqué à faire passer au niveau de la population. Ajouter une autre case, ils se disent ouais, bah, tant, si ça leur fait plaisir. Ouais.
Non, je pensais à un référentiel commun tel que humain, mais bon, enfin bon, bref.
Voilà. Et à savoir qu'aussi dans ce projet de loi, on veut faire aussi une différenciation au niveau du mariage et du PACS, parce que dans les documents officiels, de mettre soit marié, soit paxé, c'est outer de nouveau les personnes en couple, parce que le PACS, bah, c'est pour les personnes homosexuelles et mariées pour les personnes. Donc on demande à ce que ce soit dans la même ligne. Ouais. On s'en fout que ce soit marié ou paxé, c'est la même chose.
Parce qu'il y a beaucoup de droits, beaucoup de situations en fait où les droits sont identiques pour le mariage et pour le PACS. Et en fait, ben d'exiger les différences, ça pose des problèmes pour les personnes concernées.
Absolument. Ensuite, 2 objets, éducation et prévention. L'objet numéro 4 concerne un projet de loi modifiant la loi sur l'instruction publique. L'école doit lutter contre toutes les discriminations, telles qu'entendues à l'article 15 de la Constitution. Et l'objet 5, c'est la motion pour la systématisation et la pérennisation de la prévention dans tout l'obligatoire, par par exemple des ateliers de prévention et de la forme et la formation du corps enseignant. Alors allons-y avec le point 4, projet de loi.
Tout à fait. Alors, les associations, notamment LGBT, notamment la Fédération LGBT de Genève, ont beaucoup travaillé avec l'école, avec le DIP, pour davantage protéger un peu les élèves aussi des agressions, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques dans les écoles, pour que les enseignants aussi soient formés à savoir quoi faire aussi. Parce que des fois, les enseignants, c'est pas de la mauvaise volonté, mais ils sont un peu dépourvus de moyens. Donc, il y a des formations avec le budget que la Fédération reçoit du canton, mais malheureusement, chaque année, il faut redemander la subvention. Donc, elle n'est pas pérenne. Donc, chaque année, on ne sait pas si on pourra continuer ce travail. Donc, ce sera vraiment un point en moins, puis quelque chose d'important qu'on sache que ça puisse continuer. Et également, par exemple, je sais que dans les écoles, normalement, les élèves devraient s'adresser à l'infirmière parce qu'elle a le secret médical, mais c'est pas forcément su par les élèves. S'ils vont parler à un prof, c'est pas pareil que s'ils vont parler à une infirmière. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là, et notamment pour que les assos, qui font un travail énorme là-dessus, ça c'est clair, puissent continuer à le faire.
Oui, les écoles, effectivement, et peut-être même autre chose que les écoles. Par exemple, les ludothèques.
Tout à fait. Alors oui, dans tous les espaces et même dans toutes les activités sportives, tout ce qui touche aux enfants, ça devrait être le cas. Et même aussi au niveau de la police et tout ça. Hein. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais ludothèque également. Ouais.
Alors, dans le cas, parce qu'effectivement, on sait comme c'est important d'avoir la reconductibilité automatique de la subvention, parce que ça permet d'avoir des projets à plus long terme que juste d'année en année, qui finalement n'est pas si. Enfin, ça va vite.
Et on ne dépend pas du bon vouloir des responsables d'établissement, on ne dépend pas du bon vouloir de quelques chefs, parce qu'autrement, s'il faut chaque fois se battre pour faire passer ces informations. Ouais. Après, ça dépend aussi du calendrier qui peut être chargé, il peut y avoir plein de raisons de ne pas le faire, donc autant que ce soit pérennisé.
Absolument. Est-il possible que des chefs d'établissement s'opposent à ce genre de choses, ou une fois que c'est dans la loi, c'est la loi et c'est tout?
Une fois que c'est dans la loi, ça devient au programme, voilà, et donc ça devient nécessaire pour eux de le faire.
Ouais.
Ça devient une obligation. Alors peut-être que certains voudront s'opposer, mais il y a nettement moins de raisons. Puis je pense que les chefs d'établissement préfèrent quand il y a déjà quelque chose d'organisé, de prévu, que quand c'est dans le flou et puis ils n'ont pas d'instructions claires à ce sujet.
Mais ça ne toucherait pas, par exemple, l'enseignement privé, les écoles privées, ou si?
Alors, ça touche que la loi sur l'instruction publique touche. Après, il y a des recommandations, des demandes qui sont faites pour l'instruction pour les établissements privés, mais je ne sais pas à quel stade exactement.
D'accord, je vous redemanderai, on reprécisera un peu plus. Ok, le cinquième de ces points, c'est la motion pour la systématisation et la pérennisation de la prévention. C'est ce que l'on vient de dire, effectivement, la subvention reconduite automatiquement pour le mois.
Oui, mais il y a aussi autre chose qui est proposée, c'est la question de... que les établissements scolaires aient la possibilité d'utiliser, on puisse avoir un prénom d'usage, parce que le prénom d'usage, même s'il est autorisé à la base, tout le monde a le droit d'avoir un prénom qu'on utilise en pratique, qui n'est pas le prénom légal. Les établissements scolaires ne permettent pas de le noter sur la carte élève, en fait, sur les informations concernant les élèves. Et résultat, les élèves se retrouvent avec, au bon vouloir des enseignants, de faire ça ou pas. Et donc, régulièrement, vont être ôtés en classe, on va dire... Voilà, quand on fait l'appel, monsieur.
Évidemment. Voilà. Mais oui. Et on sait comme c'est compliqué au moment de l'appel. Déjà, quand on a des noms un petit peu dissonants, d'une certaine manière, entre guillemets.
Quand on n'a pas des noms francophones à la base, c'est déjà un problème. Et il y a souvent des problèmes entre le premier et le deuxième prénom, etc. Mais là, d'avoir un prénom d'usage, ça serait utile, pas seulement pour les personnes trans, mais pour tout le monde. Oui.
Et on sait la situation du harcèlement à l'école également, qui connaît une période un petit peu compliquée pour le moment.
Oui.
Justement, à savoir que le DIP, par contre, travaille vraiment là-dessus en ce moment. On a vu le cas, notamment à l'université, puis aussi dans une école du cycle, il me semble, d'élèves. À partir de 12 ans, normalement, si l'élève est capable de discernement, comme ils disent, il doit avoir le choix. Même sans l'accord de ses parents, même si ses parents ne sont pas d'accord, il peut le faire. Seulement, ça ne se sait pas. Et donc là, le DIP est en train de voir pour appliquer un règlement pour mettre ça en avant.
Excellent,
on
salue le truc en tout cas. Deux objets maintenant pour aider les victimes d'agression et de discrimination dont on parlait tout à l'heure, par exemple le recensement des crimes, en tout cas des actes homophobes, dont Dialogue parlait également. Alors deux objets pour aider les victimes d'agression et de discrimination. Le point 6, c'est une motion pour la création d'un centre d'écoute contre les LGBTI-phobies, un centre gratuit, on précise. Et puis 7, une motion pour que la police tienne des statistiques sur les agressions LGBTI-phobes.
Tout à fait, alors je vais prendre le centre d'écoute. Alors pour le centre d'écoute, en effet, c'est déjà... justement, il y a pas mal de personnes qui se font, comme on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus agressées. Donc les agressions ne sont pas reconnues en tant que telles, mais elles ont... Déjà, les personnes LGBT ont déjà beaucoup de difficultés à aller à la police, parce que déjà souvent ben, on n'est pas reçu correctement, puis des fois on peut même être agressé de différentes façons au sein de la police. Et le fait d'avoir un centre d'écoute pour pouvoir témoigner, ça permet de pouvoir doser un peu justement l'amplitude, si ça augmente, si ça diminue. Quand on voit le nombre de députés qu'on a actuellement au Grand Conseil qui tiennent des propos mais hallucinants et qu'on ne peut pas les sanctionner, quand ces élus ils tiennent ces genres de propos, les gens dans la rue disent « Ah, ben c'est légitime, on peut le faire aussi, hein, lui il l'a dit, pourquoi pas nous ?» Enfin bref, et un centre d'écoute, on a pensé notamment au centre d'écoute de SOS Racisme, un peu sur la même idée, qui permettrait de recenser ces choses et du coup de pouvoir tenir des statistiques en matière de discrimination après. Mais pour ça, il faut déjà avoir un centre d'écoute. Et on demande à ce que ce soit fait sur le même système, parce que les associations ont des centres d'écoute, mais c'est pas... On demande à ce que l'État fasse aussi son travail un peu. Les assos, elles ont beau avoir les subventions, l'État doit aussi prendre en charge sa charge de travail et faire son boulot.
Puis en parlant d'État, ben justement, il n'y a aucune statistique qui est faite concernant les personnes LGBT. Et ben, évidemment, si on ne recense pas les difficultés, les violences que les personnes LGBT subissent, ben, l'État ne voit pas le problème. Il n'y a aucun problème tant qu'on n'en parle pas. Mais...
Selon vous, c'est également une manière de... C'est une forme de déni, d'une certaine manière.
C'est une forme de déni, clairement. C'est clair. Ouais. Et c'est important d'avoir ces informations-là, parce que ben, pour lutter contre, il faut savoir la situation. On sait qu'il y a des choses qui se passent, on sait qu'il y a des problèmes, on voit les personnes qui ont été blessées, qui ont subi des agressions, mais on ne sait pas à quelle échelle c'est. Surtout que pas toutes les personnes vont voir les associations, pas toutes les personnes, celles qui vont voir les systèmes de l'État, vont pas forcément parler aux associations ou vont pas forcément être bien reçues. Parce qu'il y a des centres par rapport aux violences conjugales, il y a des centres par rapport à un certain nombre de choses. Mais sous l'aspect LGBT, ce n'est pas pris en compte. Donc, ils essayent de faire tant bien que mal dans ces services-là, mais ils n'ont pas déjà, ils ne relayent pas l'information, ils ne savent pas qu'est-ce que ça implique. J'ai été une table ronde au sujet des violences entre femmes. Il n'y a aucun centre qui savait combien de femmes étaient victimes de violences d'autres femmes. Donc, les violences entre femmes lesbiennes, on ne savait pas, quoi. Et c'est des situations que... Il y a plein de situations qu'on ne sait pas parce qu'on se voit de la face. Mmh. Et ce n'est pas des choses qui les intéressaient de savoir. Donc, c'est vraiment... Ben, faut qu'on pousse du côté de la communauté à ce que ces informations circulent et pour qu'on puisse faire des plans plus spécifiques par rapport à ça.
Bien sûr. D'accord. Ensuite, un objet pour les personnes intersexes, hein, on l'a évoqué déjà dans la première partie de l'entretien. Donc la motion intersexe, interdiction des mutilations génitales sans consentement et dédommagement des personnes qui en ont été victimes.
Ben oui, parce que en fait, les personnes qui ont subi des traitements médicaux qui n'étaient pas appropriés, qui n'étaient pas nécessaires, ont dû d'ailleurs se faire... Ces personnes-là doivent être opérées durant toute leur croissance, doivent suivre un certain nombre de traitements et d'opérations parce que les tissus cicatrisés ne vont pas grandir en même temps, donc c'est toutes des violences qui font des douleurs à vie, qui ont des conséquences à vie, et ça serait normal d'indemniser ces personnes-là par rapport aux souffrances qu'elles ont dû à des traitements qui sont uniquement sur une logique de faut faire entrer les gens dans les cases et qui ne sont même pas basées sur des lois ou sur quoi que ce soit. Donc c'est des pratiques qui sont faites par les établissements publics et privés, et avoir une interdiction claire de ces pratiques et des demandes de réparation, ça serait un minimum pour les personnes intersexes. Et certains services, dus à des responsables de services, ont arrêté de faire ce type de traitement. Il y a des recommandations sur le plan fédéral, mais il n'y a pas encore d'interdiction stricte. Donc en fait, si on n'est pas dans le bon service, ben, on risque d'avoir ces violences-là. Et ben, il n'y a pas de raison. Et ça concerne aussi des personnes qui ne sont pas intersexes, parce qu'on fait encore sur les jeunes filles qui sont... qui ne rentrent pas dans la norme, des excisions partielles, parce que ben elles ont un clitoris qui est jugé trop grand par les médecins pour être un appareil génital féminin, donc ils vont faire une excision. Alors qu'à la base, c'est interdit, mais dans le cadre médical, ils ont une justification pour le faire. Donc, ils justifient ça pour normaliser les corps, alors que ce n'est pas nécessaire du tout. Donc, toutes ces questions-là, ben, c'est important de pouvoir que les personnes... ont été touchés puissent se défendre et réagir par rapport à ça.
Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des mutilations qui ne sont pas des raisons de santé. C'est des mutilations, bah, justement, juste pour correspondre aux critères sociétaux qu'on subit actuellement. Et donc là, la proposition, c'est de laisser l'enfant se développer comme il veut, à 18 ans, choisir ce qu'il veut faire ou pas, avec toute sa conscience et tout. Et voilà. Mm-hmm.
Voilà, alors donc, ce qu'on appelle un consentement éclairé.
Parce qu'en fait, ben, on masque finalement toute une variété humaine. Toute la richesse humaine qui est entre deux, qui est en guillemets entre deux, parce qu'en fait c'est des situations qui sont on montre souvent des personnes très masculines et très féminines dans les livres de biologie, mais en réalité, la plupart des gens ne sont pas 100% dans la case homme et pas 100% dans la case femme. Ça peut être les critères de pilosité, les critères génétiques, les critères de force physique, d'apparence des organes génitaux. Il y a tellement de différences entre les personnes dites de même sexe qu'en fait, on a beaucoup plus de variétés humaines que ce qui est présenté couramment. Donc voilà, pour laisser la diversité humaine libre d'exister, ben, c'est quelque chose d'important.
D'accord. Alors voilà pour le point 8. Nous passons maintenant au dernier des points, c'est le projet de loi LIAF, LIAF, un engagement à respecter les droits des LGBTI+, lors de l'octroi de subventions publiques, un objet pour conditionner les subventions au respect des personnes LGBTI+.
Tout à fait. Alors non seulement aux personnes LGBT, mais aussi l'égalité homme-femme qui n'est toujours pas appliquée. Donc on demande en effet à ce que si l'État octroie des aides financières, des subventions ou autres, aussi bien au niveau du traitement des personnes que dans le travail, que dans les rémunérations, que dans tous les domaines qu'il peut rencontrer, l'égalité homme-femme et l'égalité pour les personnes LGBTI+, soient appliquées comme condition sine qua non. En fait.
Très bien. On a fait le tour de ces 9 points. Eh bien, c'est effectivement un gros travail. On imagine qu'en amont, ça a dû être coton de réunir justement toutes les personnes des associations, tous les partenaires que l'on salue. Donc, il s'agit de la Fédération Genevoise. Comment est-ce qu'on appelle ça précisément ? Fédération
Genevoise des associations LGBT.
Voilà, Fédération Genevoise des associations LGBT.
Le DIP.
Le DIP, exactement. Et alors, on renvoie toutes les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations justement au site de la Fédération. Je crois que c'est mieux d'aller
là. Oui, c'est le plus complet. Après, pour les questions trans, c'est bien d'aller aussi sur TGNS, Transgender Network Switzerland, qui a un certain nombre d'informations qui les concernent.
Okay.
Après, au niveau des projets de loi, ils peuvent aller sur la page voilà. D'Ensemble à Gauche, justement, où il y a tous les projets de loi expliqués de long en large en travers.
Et ça, c'est très bien fait. Nous, on a reçu le dossier, il est extrêmement complet. On s'est beaucoup inspiré de ça pour préparer cette émission-là. Quelles sont les prochaines échéances pour vous concernant justement ces 9 points ? Est-ce que vous allez, d'une certaine manière, essayer d'intervenir dans des médias encore ?
Non, là, maintenant, on va vraiment intervenir. Les élus qui sont encore élus maintenant vont intervenir auprès des autres partis pour essayer d'avoir une majorité de personnes qui soutiennent ces projets de loi lorsqu'ils seront votés au prochain Grand Conseil.
Oui.
Donc ce sera fin avril, je crois. Je sais plus quand c'est. Tu sais mieux que moi. Je suis pas élu, moi.
Moi non plus, je sais pas quoi. Mais ce sera certainement indiqué de toute façon sur le site d'Ensemble à Gauche, j'imagine.
Tout à fait,
oui, évidemment.
Voilà. Donc voilà, pour se tenir informé des prochaines activités, quoi qu'il en soit, il vaut mieux aller de temps en temps sur le site.
Tout à fait.
De s'inscrire à la newsletter, ça c'est bien.
Exactement. Voilà. Et puis à savoir aussi, ces projets de loi, on les fait parce que malheureusement, à Suisse et Genève, on signe plein de traités mais qui ne sont pas contraignants. Donc il y a plein d'intentions, il y a plein de choses. Oui, on signe ça pour, mais ce n'est pas contraignant. C'est pour ça qu'on est obligé d'agir dans la loi.
D'accord. Genève fait d'ailleurs partie des villes arc-en-ciel et devrait un peu faire quelque chose dans ce sens-là.
Très bien. Igor, avais-tu encore une question rapidement pour qu'on en termine avec ta question ? À toi le micro.
Alors, moi j'avais une question, par rapport aux 18 ans, donc on ne fait pas d'opération si médicalement ce n'est pas nécessaire, et je reviens en arrière, hein, et on laisse à la personne le choix de décider à 18 ans. Est-ce que ça sous-entend que le choix ne peut pas être fait avant et qu'il faut attendre jusqu'à 18 ans ?
Ah non, pas du tout.
Ok.
Non, voilà. Si la personne, à partir, je veux pas trop aller m'avancer trop, mais il me semble que ça peut rejoindre la loi justement sur le discernement de la personne, à partir de 12 ans, si la personne... elle peut déterminer et qu'elle souhaite le faire, on ne va pas l'interdire. Non, du tout.
Ok, voilà, c'est tout.
Il y a certaines choses qui se font à un certain âge. Typiquement, les traitements hormonaux, c'est mieux de les faire au moment de la puberté. On ne les fait pas avant. Et on peut faire un traitement qui retarde la puberté, d'ailleurs, qui permet de la décaler de quelques années pour pouvoir laisser le temps à la personne de tester en fait, son genre et puis de choisir. Et c'est des possibilités qui existent. Et en fait, voilà, on ne veut pas non plus forcer les personnes à attendre trop longtemps si elles savent ce qu'elles sont.
Et à savoir que dans les trucs à venir, il y aura notamment pour les personnes trans un truc très simple. Ce n'est pas une nouvelle loi, c'est le respect des standards de soins, en fait, qui préconise que quand on veut faire une transition, on n'est pas obligé d'avoir 2 ans d'hormones, on n'est pas obligé d'avoir 2 ans de psy pour pouvoir se faire une mastectomie ou autre. Et c'est la loi actuelle, mais elle n'est jamais appliquée. Pourquoi ? Parce que les assurances aussi, pour ça. Moi, j'ai eu d'expérience personnelle, je peux dire, on m'a dit non, parce que le chirurgien, il dit non, vous n'avez pas tout suivi et tout. L'assurance ne payera pas. Alors après, c'est au bon vouloir des assureurs. Moi, j'ai eu de la chance, mon assurance qui est pourrie pour plein d'autres choses, acceptée pour ça. Mais là, c'est au bon vouloir des praticiens, des médecins, des chirurgiens, etc.
En fait, il n'y a aucune loi en Suisse qui traite des questions trans. Et ce qui fait que c'est nécessaire souvent de se battre contre les associations, contre les assurances, parce qu'elles sont pas capables, elles acceptent pas les changements comme ça. Elles acceptent pas de prendre en charge. Les standards de soins, en fait, c'est des médecins et c'est des praticiens en général qui sont réunis sur le plan international pour voir ce qu'est les bonnes pratiques en question trans pour les personnes trans. Et donc, c'est renouvelé d'année en régulièrement, en fait, pour prendre en compte l'expérience sur le terrain, qu'est-ce qui va le mieux pour la santé des personnes trans. Donc, c'est clair que c'est une très bonne référence et qui dépasse l'échelle d'un pays.
D'accord. Annick et Marjo, je vous remercie beaucoup d'être venus jusqu'à nous pour parler des droits LGBTI+ et de Genève Capitale LGBTI+. Nous allons, nous tiendrons bien entendu informés de la suite des opérations et certainement nous allons nous revoir pour parler de ça un petit peu plus loin. Merci beaucoup.
Ah ben merci à vous de nous avoir permis d'en parler.
Avec beaucoup de plaisir. Une mini pause musicale et puis eh bien, on enchaîne avec Cathy Sottas dont on a dit tout à l'heure qu'elle est la metteuse en scène de la pièce de théâtre Chômage, tabou et préjugés. Voilà. Et en compagnie d'Olivier également, qui est un des comédiens de la pièce. Nous allons en parler après quelques minutes de musique. C'est parti.
Was fat like Joe. Like Joe. Yo, you nigga, they know that I'm Batman. You whack man, I eat a rapper like I'm Pac-Man. I'm biggie, they bring it straight from the cellar. Forella, packing more hits than Lupinella. I swella, nigga in his eye. If he tests me, you don't impress me. Yo, yo, books kick the rest. G.
One time for your mom.
Hey, yo, what up? It's the crew bringing the ruckus. Yeah. No doubt we's the roughest dream team. Reign supreme like the Cutlass getting duckers. The dope, dope, you can't touch the flow. No, it's me, the nigga with G. The so say yes, a bunch of caliber when I pop shit and rock shit like Metallica. Stays through the hearts of them snake fake niggas. Them all up in my face, jealous of my tape niggas. So honey, shake your fingers and show me what you got. Dice effects with the real hip hop.
Hip hop. Some sense seed and chase it with the Guinness. The illest. Now hit me with the hook because I'm finished. To the